Voilà, Manon. Connaîtrais-tu une bonne auberge où je puisse écouter des troubadours mélangeant rap, rock et ritournelles de variété?
Ah non, monseigneur. Et je pense qu'il faudra encore attendre plusieurs siècles avant que pareil miracle ne se produise.
Zulu Radio.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, c'est la Zulu Radio, le retour en cette fantastique période de pandémie de Covid. Mais où est donc la culture? Ce sera la thématique d'aujourd'hui qu'on va avoir le plaisir de décliner au fur et à mesure de cette émission, un petit peu plus d'une heure à passer ensemble. Le concept, il est très simple, on a invité autour de la table pas mal d'intervenants, de chroniqueurs, essentiellement issus des Zulus, mais pas seulement, puisque vous allez avoir le plaisir d'accueillir avec nous un artiste. En l'occurrence, aujourd'hui, ça va être un duo d'artistes. C'est le projet Olila. Edgar et Elliot vont nous expliquer dans deux petites secondes ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, et un petit peu plus encore. Et nous avons également le plaisir d'accueillir une élue colombienne aujourd'hui. C'est Chantal Barthélémy Ruiz, qui est élue donc à la culture. Alors, avant de vous présenter nos invités, je vais vous présenter la merveilleuse équipe qui m'accompagne pour cette émission. Déjà, faire un gros big up à Julien, alias Doulez, qui s'occupe de la technique. Salut Julien. Il est parfois somnambule, et quand il est somnambule, il fait des chroniques. C'est Fred Giscra qui est à ma droite.
Bonjour.
Nous avons également la fantastique Cathy Arnaud, qui est pas très très loin de moi, mais un petit peu quand même. Salut Cathy. Quand elle va en boîte, c'est une véritable fusée. C'est Mélanie qui est avec nous. Salut Mélanie.
Bonjour.
Voilà, l'équipe de l'émission est au complet. On aura le plaisir de vous retrouver tous les 15 jours, tous ensemble, avec à chaque fois un petit peu la même déclinaison. Un ou des artistes invités pour représenter non seulement la partie artistique, mais aussi la partie citoyenne. Et également un élu de Colombe aujourd'hui pour la partie artiste. On accueille Edgar et Elliot, c'est le projet Olila. Salut les gars.
Salut.
Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et on va accueillir notre dernière invitée. Bonjour Chantal Barthélémy Ruiz.
Bonjour à tous.
Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je le disais en préambule, vous êtes donc adjointe à la culture et à une multitude d'autres tâches, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est surtout la culture dont on va parler, puisque la culture en période de pandémie, c'est le thème de notre émission. Voilà, vous avez tout, vous avez le programme. Et je propose pour commencer qu'on présente Edgar et Elliot, ou Elliot et Edgar, comme vous voulez. C'est pareil, c'est comme boule et bille, vous les mettez dans l'autre sens, ça fait bille et boule. Mais les deux personnages restent les mêmes. Donc, on a un projet assez fantastique de chansons françaises, mais pas seulement. Je te laisse nous présenter un petit peu le projet, Elliot, si tu veux.
Alors, merci, on est content d'être là. On présente Olila, donc un groupe de chansons françaises qui est revisité un peu avec de la Loop Station. Donc,
de Loop Station
d'ailleurs. Voilà, on est des musiciens aux influences différentes.
Ouais. Moi, je viens plutôt du jazz, de la funk, du blues, et Elliot plutôt de la chanson française. Et jusque-là, on défendait beaucoup les chansons d'Eliott. Et puis depuis cette fameuse pandémie, on a été contraint de trouver d'autres formats, d'autres manières de composer avec quoi. Donc voilà, c'est comme ça que le projet est né. Olila.
Non, à Colombe.
Et bien justement, entre la maison d'Eliott qui se trouve à Colombe et la mienne qui se trouve au Lila.
Le fin mot
de l'histoire.
Voilà. Comme quoi, des fois, il suffit de dire une connerie pour avoir le fin mot de l'histoire. C'est ça qui est magique avec la radio. Alors, vous l'avez dit, effectivement, loin de là, la culture n'est pas morte. En cette période de pandémie, elle est quelque peu bâillonnée, entravée, mais elle existe toujours, preuve en est. Le fait que vous avez, vous, su utiliser cette période, justement, pour définir un projet commun. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse du projet? Puisque toi, Elliot, on t'avait connu, notamment, lors d'une magnifique soirée préélectorale, où on avait pu voir un petit peu ce que tu avais à proposer au niveau de tes textes.
Yes.
Voilà. Comment est le projet, un petit peu, entre vous deux?
Bah, c'est ça, en fait, quand on s'est retrouvés tous ensemble en 2019... au Tapis Rouge, me semble-t-il. On était sur scène avec Edgar, tous les deux, pour présenter encore les projets de Elliot. Voilà, donc Elliot, on a travaillé pas mal de temps parce qu'on a été musicien du métro, donc on a aussi on a travaillé à ces chansons-là.
C'est depuis 2014, en fait.
C'est depuis 2014, ouais,
qu'on joue beaucoup ensemble. Ouais.
Et puis arrivé au confinement en mars 2020, on s'est retrouvé donc Porte des Lilas dans son appartement et on a fait un EP aujourd'hui qui sortira au complet prochainement fin mai, mais on a déjà 3 chansons qui ont été proposées sur les réseaux et sur le net. Et donc voilà, on a pu se réunir, on a pu créer un nouveau groupe.
Et faire de la musique assistée par ordinateur, chose qu'on n'avait pas fait avant.
Surtout. Voilà. Donc on a pris ce temps pour se renouveler un peu dans nos projets.
Et du coup, le fait de vous connaître depuis aussi longtemps et d'avoir partagé des expériences communes et variées, du coup, ça a dû presque vous paraître naturel de monter ce projet ensemble.
Ouais, complètement. En fait, le truc, c'est que ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'entre 2017 et 2019, Elliot est parti au Canada.
Ouais.
Voilà, pour développer, justement, défendre ses chansons ailleurs, conquérir un nouveau public. Et donc, quand il est revenu et qu'on s'est retrouvé à reprendre comme si de rien n'était, c'était assez logique de remettre le couvert, quoi.
Sous une autre forme. Voilà, on voulait se retrouver et je tenais particulièrement à ce que les on va dire l'outil mais pas l'outil le l'ami en même temps aussi, voilà, l'homme, le musicien,
je suis un outil.
Voilà la chose voilà qu'on puisse relier nos influences et puis que la chanson française devienne quelque chose qui groove, qui...
De plus hybride, quoi.
Voilà, ouais, plus hybride, ouais, c'est le mot.
Parfait. Et parce que, finalement, ouais. Ça, quand tu dis que tu fais de la chanson française, on a tout de suite l'impression que ça t'enferme un peu dans un carcan, en fait.
Ouais, tu vois.
C'est-à-dire un truc un peu vieillot, un peu limite, un peu démodé. Donc c'est bien aussi de faire évoluer.
Mais de toute façon, la chanson française évolue vachement, enfin, avec l'influence des musiques urbaines. Maintenant, l'appellation chanson française recouvre de plus en plus de terrain. Et on arrive un peu à se dépatouiller de l'esthétique Georges Brassens, que j'adore. mais ouais, en effet, il y a une espèce de carcan autour de cette appellation.
Donc pour vous, désormais, on va appeler ça du arts et métiers corps. C'est bon, c'est bon. Je vous propose sinon ligne 11 corps.
Ligne 11.
Ligne 11 corps, ça peut être bien. c'est un bon concept. Écoutez, comme un peu de musique vaut largement de longs discours, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale et qu'on découvre votre univers pour de vrai avec un premier titre, donc qui est le tout premier que vous avez sorti.
Ouais.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
On a composé d'ailleurs.
C'est le premier qu'on a composé. Ouais.
Ouais. C'est le tout premier qu'on a composé. Il s'appelle Nyssa, NYSA. Et non, ce n'est pas le marchand de vin. C'est bien notre chanson. C'est New York Shopper Addict. Donc voilà, c'est une chanson. Toutes ces chansons sont à la base enregistrées avec des loop stations et en effet, donc des loop stations, pour ceux qui ne savent pas, c'est des pistes de son qui sont enregistrées les unes sur les autres pour essayer de créer un orchestre en étant deux, donc des percussions, des synthés, des guitares, beaucoup de chœurs.
C'est tout travaillé avec la main. Voilà, et du coup cette chanson, c'est le portrait un peu acide d'une fashion victime de notre époque.
C'est ça.
Voilà.
Eh bien, on écoute donc Nyssa du projet Olila. Et juste après, on vous retrouve avec notre camarade Fred qui nous présentera la chronique du somnambule.
Eu suis la tournée des magasins, j'en ai dans le porte-monnaie. Pour moi la vie tourne bien, si je peux m'acheter ce qu'il me plaît. J'ai la folie des grandeurs et j'aime vivre avec ça. J'avoue je connais ça par cœur, le shopping c'est mon dada. J'aime l'étendue des vêtements, les rayons en étagère. J'ai l'habitude de prendre mon temps pour choisir mes affaires. Entre le short et les gants, j'ai mis été comme hiver, les sandales ou les collants. J'ai du choix vestimentaire. New York Chopper Haddick, 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 New York Chopper Haddick. Entre New York et Paris et jusqu'en Italie, oh, je suis l'égérie des grandes marques, la poupée a façonné. Tout le monde me regarde et me mate, la foule est contaminée. En photo, en vidéo, je fais plaisir à l'audimat. Je peux m'exposer en manteau ou bien nu sur un transat. Je suis passionné par la luxure, des bijoux, des peintures, des habits, des voitures, des maisons, des chaussures. Tout est bon dans le shopping, je suis du genre à être bling bling. Quand c'est beau, quand c'est cher, tu peux être sûr que ça va me plaire. Oh, New York Chopper Haddick, 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 entre New York et Paris. J'ai créé une addiction en regardant mes additions. Je contribue dans mon salon à toute forme d'extinction. Des tapis en peau de mouton, des manteaux en peau de chameau, un aquarium de poissons, oui, le blanc d'un cachalot. J'ai le droit de la consommation, je détruis, je rachète, je dépense mes emplettes, y'a plus rien qui m'arrête. Tout est bon dans le shopping, je suis du genre arrête, bing bing. Quand c'est beau, quand c'est cher, tu peux dire que ça va me plaire. New York Chopper Haddick, 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 entre New York et Paris et jusqu'en Italie. Oh,
Olila à l'instant sur la Zulu Radio, c'était le morceau N. YSA, traduisez New York Chopper Addict, c'est ça?
Exactement.
Pas de bêtises, ni ça. Donc, bien groovy, hein, bien la patate. Avec, on se faisait la réflexion, comme petit quelque chose de Michel Jonas dans la façon de chanter.
Allez, ah ouais, pas mal.
Est-ce que la référence vous parle, Chantal?
Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis d'une génération dans laquelle, effectivement. C'est un artiste que j'ai bien aimé. Dans ce que j'ai entendu là, moi, c'est à la fois une découverte et ça ne l'est pas, parce que évidemment à Colombes, qui ne connaît pas Elliott?
Non,
donc c'est voilà déjà. Mais je n'avais pas entendu. Je trouve qu'il y a. Je ne connais pas toute l'œuvre d'Elliott et de Edgar et Elliott, mais. Il me semble qu'il y a eu une évolution par rapport à d'autres choses que j'avais entendues. Edgar, ben, c'est un grand plaisir d'avoir fait ta découverte là. Alors, c'est une découverte quand même parce que moi, je suis évidemment moins... J'ai peut-être moins le temps et je suis moins versée dans tout ce qui sont les courants musicaux aujourd'hui. Et je n'avais pas entendu de montage fait avec ce système de Loop Station. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et il y a quelque chose qui, moi, m'a beaucoup touchée, bien que Chopé soit pas mon dada, mais en revanche, ce que j'aime beaucoup, beaucoup quand j'entends une chanson, c'est comprendre ce qui se dit. Et je trouve qu'il y a un équilibre entre ce que vous dites et l'accompagnement, enfin la mélodie, accompagnement musical, je ne sais pas si on peut dire mélodie, ça peut se dire après tout dans n'importe quel type de musique. Mais il y a vraiment une diction absolument extraordinaire et ça, j'adore parce que il y a à la fois du rythme, en même temps, il y a du sens, c'est plein d'humour. Voilà, c'est, je crois, c'est tout beaucoup. Ce qu'on peut aimer. Et c'est une chanson à écouter peut-être dans ce temps de confinement où on a un peu de temps devant soi et où on a besoin de choses qui nous donnent un peu de peps. Et donc ça, c'est parfait pour ça. Je vais la rechercher sur YouTube en rentrant.
Ah, et puis ça montre qu'il y a quand même beaucoup de talent à Colombes.
Oui. Alors, justement, dans les projets, enfin, en tout cas, le programme sur lequel on a été élu et les projets qu'on a, il y a celle, à partir de l'année prochaine, de développer une bourse pour des talents émergents. Alors, Elliot, c'est déjà presque plus un talent émergeant, parce qu'on le connaît depuis plusieurs années, mais ouais, même, je pense que vous pourrez quand même candidater à ça, à mon avis, avec Olila.
C'est bien pour les artistes, ça.
Voilà, je pense que c'est quelque chose... Bon, ce qui est difficile quand on est en charge d'un secteur comme la culture, c'est d'arriver à équilibrer entre des impératifs, enfin, des objectifs qu'on a qui sont très importants, de dire... Faut que la culture arrive chez tout le monde et puis d'arriver à financer le fait que sur le plan pédagogique ou de choses, ben, y a un accès à la culture pour davantage de personnes. Puis en même temps soutenir les acteurs existants qui en ont bien besoin, n'est-ce pas? Je crois que vous êtes bien placés chez les élus pour le dire. Et puis en même temps aider à faire émerger de nouveaux talents. Et donc on va essayer... De mettre ça en place et ah oui, donc je pense que vous serez tout à fait dans le créneau de,
ouais,
de ces choses qu'on aimera mettre en avant.
C'est bien de voir que voilà, c'est vrai que les artistes, même aujourd'hui, ils ont besoin de ça pour aussi se relancer quand donc ça donne un petit peu d'espoir aussi.
Voilà. Et c'est vrai qu'à Colombes, c'est une ville dans laquelle ben, c'est un peu comme la culture en ce moment. La culture, on a l'impression en ce moment que c'est un peu endormi parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils sont entravés dans leur expression. Même si on fait beaucoup d'efforts pour arriver à trouver des lieux dans lesquels c'est quand même possible et des événements sur Facebook, etc. Mais y a toujours, la culture, elle est quand même là. Mais elle n'est pas endormie du tout. Elle ne demande qu'à se réépanouir à nouveau. Et je pense qu'à Colombes, en matière de talents qui ne sont pas encore très connus, c'est la même chose. On n'a pas forcément l'impression qu'il y a énormément de talents parce qu'ils n'ont pas l'accès à des scènes et à des moments où ils peuvent être très bien vus. Mais je sais qu'il y a énormément de talents qui demandent qu'à émerger, à s'épanouir. Et donc, on va essayer de les aider à ça.
Alors lui, on va le faire émerger maintenant. Parce que quand la culture est endormie, lui bouge, il écrit.
Yo.
C'est le somnambule.
Yo.
Qui va nous proposer sa chronique du somnambule.
Pour réveiller un peu la ferme, mais toujours l'œil ouvert. Voilà. Alors, salut les pirates. Plus d'un an et quelques mois qu'on se moque de nous. Gens de culture, petites ou grandes, subventionnés ou non. Déjà 100 000 morts, on le déplore bien sûr. Cependant, les études et le sérieux des camarades collègues de la bamboche ont démontré qu'aucun cluster n'était à déplorer en cinéma, salle de spectacle ou autre rave sauvage. Une grande incohérence doublée d'iniquité majeure alimente l'incompréhension et la tension. Cependant, la grogne se justifie-t-elle? Ne doit-on militer que pour notre énorme cathédrale catégorielle, à savoir l'ouverture des lieux, les concerts debout, l'intermittence, la prolongation de l'année blanche, l'accueil des amateurs, l'article 25, ou faut-il d'ores et déjà aller vers une convergence des luttes avec l'ensemble des secteurs et personnes maltraitées, policiers, politiques véreux, GAFAM, lobby, pro-chasse et affairistes exclus? Déjà 100 000 morts, et combien de victimes collatérales des lois liberticides, de l'assurance chômage, des retraites, de la loi travail, de la disparition des services publics et de l'oubli de transition énergétique, sans parler du reste. Toutes ces belles initiatives surlibérales qui créent des effets d'arrosoir inversés. Les riches et autres actionnaires qui se sont mis cool pendant le Covid, et bien avant d'ailleurs, ils sont censés, si on suit la théorie de l'offre, mainstream et postmoderne, et qu'on les laisse tranquilles bien entendu, assurer le bonheur de la populace, alors qu'en fait, ils lui mangent le caviar sur le dos. Comme une envie de redécouvrir la commune, qui fête ses 150 ans, sa puissance, sa clairvoyance, son honnêteté, et aussi son romantisme qui a fait sa grandeur, mais l'a conduite à sa perte en 72 jours. Massacrés par milliers les fédérés, communeux, communeuses, ils avaient pourtant déjà tout bon. Séparation de l'État et de l'Église, école obligatoire, union libre, égalité FH et citoyenneté modèle. Je suis vexé et m'interroge sur la disparition des lumières de la ville, en souvenir de Louise Michel. Comme une envie de travailler Jules Ferry et Adolphe Thiers au fer à souder. Alors bien sûr... De la commune à Colombes, la nôtre, il n'y a qu'un pas ou presque, puisque cette ville magnifique s'est dotée d'une nouvelle majorité aux dernières élections. Alors, étincelle, incendie ou grands travaux, après ces 10 mois de gestation sous virus? Pas simple a priori de trouver ses marques quand on est jeune décideur, élu ou technicien, technicienne. En tout cas, les uluberlus, gauchistes, provocateurs, militants et bêtes noires de Guetta et de tous les péténismes peuvent à nouveau s'exprimer. C'est déjà mieux. Même s'ils sont toujours à la rue, sans locaux, Mais comme d'hab, la besace remplie de super projets. Diffusion à la MJC, une installation et des répètes pro sont d'ores et déjà calés début mai. Éducation artistique et culturelle en primaire et collège, de la musique et du lien social en politique de la ville, des lycées en cavale, résidence et sortie d'albums pour Vex et une Zulu Radio à la Maison des associations et de la culture. Nous demeurerons patients un moment encore, mais le temps presse et nous resterons clairvoyants toujours au nom des droits culturels et fondamentaux, au nom de la sociale et de l'éducation populaire. Les élus Berlioz auront 30 ans côté asso en 2022, 35 ans côté groupe et plus de 40 ans côté famille. Jamais mal, ni marre, ni mort, pas le moment de lâcher. Alors celle-là, Steph, elle est pour toi. En attendant des jours meilleurs, à vous les studios. Tenez bon.
Ouais, petit coup d'émotion sur la fin de la chronique.
Désolé, mais
pour le camarade, pour le camarade Steph. Ben oui, on vient comprendre. Et pour le coup, au moins c'était sincère. Et rassure-toi, Fred, ça fait de l'audience. Donc voilà, ne t'inquiète pas. On veut bien te comprendre. Donc,
c'est ça, se mettre à poil hein, par moment.
Eh oui, effectivement, il est plus difficile de déshabiller une âme qu'un corps. On est bien d'accord là-dessus. Très très riche cette chronique du somnambule, très très vraie aussi. Bah écoutez, je vous propose qu'on prenne un petit peu chacun ce que vous en avez, ressorti. Pour vous déjà, les gars, Elliot, Edgar, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce qui vient d'être dit? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous fait écho? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez depuis un an?
Bah ouais. Ça sent une petite rage qui bouillonne, quoi. Non, ça sent la petite rage, la colère saine, quoi. Donc c'est...
Moi, je pense que c'est un avis partagé. Mais c'est vrai que les Zulu Berlu, ils représentent cette scène à Colombes qui est quand même très active depuis de nombreuses années maintenant, comme l'a dit Fred, et il y a des choses à il faut se révolter par la parole, par la musique et faire exploser nos idées et dire ce qu'on pense tant qu'on le peut encore, parce qu'on ne nous a pas privé de ça. C'est toujours bon, et c'est un avis de partager cette chronique. Super chronique, super texte.
Je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que on nous a pas privé de ça. Alors c'est vrai, hein, je veux dire, c'est pas demain que la police viendra frapper chez nous pour nous dire qu'on s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il n'empêche que depuis un peu plus d'un an maintenant et l'instauration de l'état d'urgence, clairement, on a un gouvernement qui fait ce qu'il veut, qui promulgue des lois qui sont pas forcément toujours ni cohérentes, ni le reflet de ce que devrait être le Parlement, même si aujourd'hui le Parlement est réduit à une chambre d'enregistrement, on le sait, puisque les législatives suivant les présidentielles, forcément, de toute façon, les législatives donnent toujours une majorité au président élu. Alors c'est vrai qu'on est parfois un peu con, le peuple français, mais enfin, jusqu'à présent, on a toujours été un petit peu cohérent, c'est-à-dire que quand on a fait une connerie au présidentiel, on l'a assumé et confirmé aux législatives. Voilà. Donc, effectivement, pour ça, j'avoue, on est au moins cohérent.
Avec les Français.
Il n'empêche que, depuis quand même un an, l'expression, elle est réduite à peau de chagrin, parce que, clairement, la culture, ça sert aussi à ça. La musique, le théâtre, le cinéma, depuis un an, c'est pratiquement porte close. Donc, on a quand même des restrictions qui, comme le disait Fred au début de sa chronique, ne sont pas forcément justifiées, parce qu'on nous a expliqué depuis un an que c'était pour nous protéger, alors qu'en fait, ça reste encore à expliquer, et ça reste à voir, ça reste à démontrer, puisque généralement, quand il se passe quelque chose de culturel, musical, théâtre, cinéma, il n'y a pas de cluster qui se développe dans ces lieux-là. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est comment on en arrive là, comment on en sort, et puis est-ce que justement, comme tu le disais si bien, est-ce qu'on reste chacun dans notre chapelle, ou est-ce qu'on peut tous se regrouper pour faire valoir qu'effectivement on avance sur un modèle de société qui ne nous convient pas nécessairement. Je vais te laisser rebondir là-dessus, Cathy, Mélanie, puis après on donnera la parole à Chantal.
Je suis assez d'accord sur tout ce qui vient d'être dit dans la chronique, sur la façon dont on rebondit les garçons. C'est vrai qu'on est dans une société privée de culture, mais en plus, il y a plein de lois liberticides qui passent en ce moment. Et ça pose question. Donc, je rebondis sur le fait que je pense qu'à un moment donné, il va falloir passer à l'action. mais on sait bien que si on se fédère pas ensemble, ça va être un petit peu compliqué. Donc je sais pas, il y a peut-être des choses à trouver entre le personnel hospitalier, entre les gilets jaunes à un moment donné, entre les gens des écoles, les gens de la culture. Enfin, je pense qu'à un moment donné, oui, il va falloir qu'on se mette un petit peu tous ensemble et qu'on réfléchisse ensemble. Mais je vois pas trop comment, puisqu'on peut plus se réunir. On peut pas faire de manifestation. Enfin, ça devient compliqué. Enfin, voilà, je me pose plein de questions. Donc, je vais laisser Mélanie.
Je suis plutôt d'accord avec tout ce qui s'est dit autour de la table. Moi, ce qui m'alarme le plus, c'est que tout ce qui se passe depuis un an, ça touche à nos libertés. Au manque de liberté du coup qu'on a dans nos vies quotidiennes. Je pense qu'on était déjà, on se doutait déjà un peu avant que le monde meilleur ne viendrait pas d'en haut, mais là en fait depuis un an on a bien compris que si on voulait construire quelque chose d'un peu mieux que ce qu'on a déjà entre les mains, on pourrait le faire que par nous-mêmes. Et effectivement tout seul, c'est vraiment difficile de faire quoi que ce soit, ou en tout cas, ça n'a pas assez d'impact. Et donc, aujourd'hui, les seules choses qu'on peut faire, c'est essayer de se mobiliser ensemble pour trouver des solutions collectives. Malheureusement, comme tu disais, Cathy, on n'a pas le droit de se rassembler, pas le droit de faire grand-chose. Donc, j'ai envie de dire que, la seule solution, en fait, c'est d'être un peu révolutionnaire et de contrer un petit peu les lois en place pour essayer de trouver quelques onces de liberté dans un petit coin pour essayer de penser collectivement au monde de demain et à comment on pourrait sortir de cette mouise, quoi.
Comment est-ce qu'on arrive à prendre en compte d'un côté parfois des réactions, des colères qu'on peut comprendre, et de l'autre côté le fait qu'on est aussi là pour être un petit peu l'écho de lois qu'on ne partage peut-être pas forcément, mais qu'on se doit de faire respecter?
Absolument, c'est une question qu'on se pose quasiment tous les jours. Et puis en même temps, il faut avancer parce que l'idée, c'est... Je crois que déjà, quand on se propose au suffrage de ses concitoyens et qu'on a la chance d'être élu, on est prêt, on sait qu'il y a de la colère, que très souvent, c'est nous qui allons la prendre à la place peut-être d'autres personnes, qu'il y a des cas de précarité, de difficultés terribles. Alors c'est vrai qu'on, moi je ne reçois pas que des personnes qui sont du monde de la culture, parce que je suis avec mes concitoyens aussi au niveau des quartiers et autres. Et alors c'est vrai que la culture a été particulièrement abîmée au niveau de ses droits. La question des intermittents, la question, bon, là, on parlera peut-être tout à l'heure de la réforme de l'assurance chômage, de tout ce qui est, puis on parlera des lois liberticides sans doute un peu plus tard. Mais c'est vrai que quand on voit toutes les peines et les difficultés d'un certain nombre de personnes, les colères d'autres personnes, tout, il ne faut pas en rester là quand on est élu. Il faut se dire, je ne peux pas, bien sûr... Comme tu viens de le faire remarquer, je ne peux pas recevoir une directive du préfet et dire j'en tiens pas compte. On n'a pas le choix quand on est élu. Mais en même temps, on peut se dire regardons ce qui est dans notre possibilité de faire maintenant. Ça n'empêche pas qu'on peut partager des luttes et qu'on peut notamment les partager à travers les organisations dont nous faisons partie. Moi, je suis au conseil d'administration de la Fédération des villes pour la culture. On travaille avec la FNCC, on travaille avec France Urbaine, et on est en lien vraiment avec le Syndéac, avec tous les syndicats du secteur culturel, et on est en train d'essayer
c'est
de travailler...
C'est pas la meilleure référence.
Hein. Non, mais enfin bon, je dis le Syndéac parce que c'est un syndicat, il y en a plein d'autres, et on essaye de voir comment on peut faire une convergence. Alors moi, j'en suis pas effectivement à dire la convergence avec les gilets jaunes, parce que dans mon boulot d'élu à la culture, c'est d'essayer de faire avancer les choses culturelles. Je vais vous dire ce qui m'a. À un moment, j'ai eu un jour où j'ai été, je suis rentrée chez moi et je me suis dit mince, faut que tu trouves comment sortir de ça quand même. Mais j'avais eu deux réunions avec deux fédérations dont je fais partie différentes et qui amenaient toutes la même réflexion, à savoir qu'elles avaient rencontré la ministre de la culture. laquelle était pleine de bonne volonté, comme ça, dans ce qu'elle disait, mais finalement, disait surtout « oui, mais c'est pas moi qui décide ». Les fédérations s'étaient dit « on va aller voir le ministre de la Santé, puisque c'est le problème, c'est une pandémie maintenant ». Et quand ils ont discuté avec le ministre de la Santé, on s'est rendu compte que dans son ministère, musée pour eux égalait simplement le Louvre ou Orsay. Et donc, ils n'imaginaient même pas qu'on pouvait ouvrir les petits musées et qu'il n'y avait pas de risque. On ouvrait des galeries parce que ça vend dans les galeries, mais les petits musées n'avaient pas le droit. Après, quand on leur parlait théâtre, cinéma, pour eux, la référence, c'était les restaurants. Alors d'accord, on mange du pop-corn parfois au cinéma, mais il n'y a pas grand rapport dans la situation de quelqu'un qui est en train de dîner et qui n'a pas son masque et qui... avec quelqu'un qui est dans une salle. Donc, ce soir-là, en rentrant, je me suis dit, écoute, regarde ce que tu peux faire bouger sur Colombes, déjà, et continue, bien sûr, à faire ce travail avec les organisations. Je pense que, quand même, là, on va probablement arriver à quelque chose. Ça ne va pas commencer par les musiques actuelles. Et ça ne va pas commencer par, bien qu'il y ait eu beaucoup de propositions de faire des choses où il pourrait y avoir des tests qui soient faits avec des mesures prises au niveau sanitaire. Je pense qu'ils ne sont pas prêts de l'accepter. On va d'abord ouvrir les musées, parce que c'est quand même là le moins. Voilà. Puis peut-être après, il y aura les cinémas. Mais voilà.
Roselyne Bachelot s'est engagée au contraire, parce qu'elle ne vient pas lâcher la non interministérielle, effectivement, en disant que si les musées ouvraient, tout ouvrait.
Bon, tant mieux.
On verra
si ça
à partir
évolue
du,
comme ça.
Du 17
on va
mai.
Voir.
Mais c'est le 17 mai que ça va jouer.
Vu que ce n'est pas elle qui décide de toute façon, là non plus.
Non, c'est le Conseil de défense qui décide,
ça.
En fait.
Donc
c'est ça.
Voilà, on n'est pas rendu. Alors heureusement. Les Zulu sont là, la Zulu Radio est là, et la Zulu Radio vous fait découvrir ce soir un projet qui s'appelle Olila. On a déjà écouté un morceau tout à l'heure, je vous propose qu'on en écoute un deuxième maintenant, que je vais vous laisser présenter, Elliot, Edgar.
Alors, la chanson c'est « Tes trucs » ou « Les trucs », et c'est encore une fois un portrait, et c'est le portrait d'un mec qui est un peu perdu dans sa vie, qui paume tout. Ouais. Et voilà, qui est un petit peu désespéré, mais au moins il le reconnaît.
Ouais,
voilà.
C'est ça. Non, mais on s'y retrouve. On s'y retrouve tous les jours. Petite anecdote avec le masque là.
Plus,
maintenant, ouais. on doit penser à ça.
Ça fait un truc de plus à penser.
Ouais. T'oublies un truc le matin, et puis tu te dis je vais prendre sur moi, parce que dans une heure, j'oublie autre chose. Donc voilà, on repense à cette chanson à chaque fois, et tes trucs, ça montre bien. Cet homme-là.
Eh bien, on écoute ça sur la Zulu Radio et on revient pour parler de la culture en période de pandémie. On est ensemble encore pendant un petit moment. Restez avec nous.
Faire, ça me rend si fada. Je peux tourner en rond pendant des heures durant. Retourner ma maison pour trouver un vêtement. C'est ma façon à moi. Je ne suis aucune logique. Les gens ne me comprennent pas et disent que je suis bordélique. C'est un peu artistique. Je le conçois comme ça. Même si cela m'épuise vite, je garde toujours la foi. J'ai mis des les étiquettes sur chaussettes et caleçons. J'ai graffé ma casquette, des lettres de mon nom. J'égare au quotidien tout ce qui m'appartient. J'accuse la terre entière d'avoir pris mes affaires. J'ai mis les étiquettes sur chaussettes et caleçons. J'ai graffé ma casquette, des lettres de mon nom. J'égare au quotidien tout ce qui m'appartient. J'accuse la terre entière d'avoir pris mes affaires. Paniqué, absent, speed et lent, le gars n'a plus le temps tant il a passé à chercher. Égaré et haletant, effrayant quand il cherche les clés de son appartement. Comme un chanteur de blues, il aura tout perdu. Fait que sa femme l'a quitté et que ses potes lui parlent plus. Le pauvre type est maudit et si ça continue, il ne lui restera que la culotte au cul.
Sur Zulu Radio, sur la Zulu Radio, il n'y en a qu'une, c'est la nôtre, c'est la Zulu Radio. Des trucs donc avec le projet Olila qui sont avec nous pour cette émission. Yeah. Et maintenant, on va passer à un moment qui devrait permettre une belle confrontation d'idées. On vous a prévu un petit débat en cette période de culture et pandémie que je vais te laisser introduire, Fred.
Eh bien, écoute, je te remercie, Buddy, et je voulais effectivement remercier. Là parce que c'est bien, moi je découvre aussi, c'est top quoi. Ce mélange de genre, voilà, je reconnais plein d'influences, plein de choses sympas. C'est vrai que la voix sort bien, les paroles sont bien écrites et attirantes. Voilà, donc ouais, je voulais revenir donc sur ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette situation, l'iniquité qui touche un peu le monde de la culture, donc les spectacles au sens large. Voilà, je m'interroge toujours hein, en tant que responsable national de la Fédélima. Alors moi, je suis plutôt SMA hein, qu'au sein des HAC.
C'est pas grave. On travaille ensemble,
mais on signe beaucoup de tribunes avec aussi le sein des HAC, aussi le SNAM CGT, effectivement, sur la culture en danger, notamment. Donc voilà, est-ce qu'il faut s'élargir à d'autres secteurs, que s'occuper des musiques actuelles. Bon, bref. Moi, je voulais juste insister sur deux petites choses qui, je trouve, c'est toujours les petits qui sont les plus mal lotis. Aujourd'hui, on peut organiser dans des salles hein, de spectacles, nous, on en profite aussi, etc., etc., des résidences pro, suivies de live stream ou pas, enfin bon, qu'on soit d'accord après ce genre de diffusion un peu froide, mais tellement moderne, tellement post-moderne en même temps. Voilà, donc par contre, ce qu'on peut pas faire, c'est légalement, bon, mis à part le fait d'étudier bien le décret qui a des zones grises, c'est accueillir et permettre aux amateurs, qui sont quand même 95% de la population des créateurs en France, sachant que dans la musique notamment, de domaines où je connais mieux, mais je pense que dans le théâtre c'est pareil, on peut être au firmament et puis plus dur sera la chute quelques mois après, ben, n'être plus rien. Donc ça veut dire quoi d'être amateur ou d'être professionnel? Moi je préfère le terme pratiquant pour tout le monde. Donc aujourd'hui il y a des pratiquants bon, qui ont le droit et puis des pratiquants qui n'ont pas le droit. Donc déjà c'est pas normal, il y a un truc qui va pas là-dessus. Et comme par hasard c'est encore la masse qui n'a pas le droit. Mais dans le sport c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a le droit de préparer les Jeux Olympiques, mais par contre aller s'entraîner avec ses potes voilà, dans une salle quelle qu'elle soit, ça c'est pas autorisé. Donc moi, ça me gêne. Donc on se bat beaucoup là-dessus, effectivement, pour qu'il y ait une équité à ce niveau-là. Et deuxièmement, avant de parler du futur et des actions qui sont quand même mises en place, je laisserai la parole à Cathy après, c'est de parler de cette... on parlait de loi liberticide. Alors, il faut que je précise les choses, parce que tout le monde le sait, il y a une loi sécurité globale qui vient d'être votée. Donc, toujours pareil, hein, les lois, elles sont votées, alors notamment sous forme de Covid, à minuit et demi, avec 15 crétins à l'Assemblée nationale. Donc, il y a un truc qui ne va pas, déjà, je trouve, au niveau...
Si tu n'étais pas en temps de Covid, la même loi serait votée par 150 crétins.
Voilà, tout à fait.
À la même heure en plus. Hein.
Donc, c'est une grande vision de la démocratie. Voilà, sur la Ve République, tu l'as dit tout à l'heure, Buddy. Bon, bref, on rigole pas mal. Voilà, l'initiative des lois n'est pas vraiment au Parlement, mais ça, bon, on le sait. Il faut le savoir. Donc, loi sécurité globale. Je reviens sur mes petites choses. Donc, tout le monde a vu l'article 24, bien sûr, bien entendu, on n'a pas plus le droit de filmer les forces de l'ordre en action. Première chose, donc monter le bouclier, les journalistes. Je me demande s'ils ne l'ont pas fait exprès, d'ailleurs, pour que tout le monde se jette là-dessus, pour faire passer les autres. Parce que l'article 22, avant d'en arriver au 25 qui nous occupe plus à même, l'article 22, c'est pareil. C'est, on va être surveillé par des drones en permanence. Voilà, il n'y a pas de problème. Tout va aller bien à ce niveau-là. Donc, j'en passais les meilleurs. Et donc, l'article 25 qui nous occupe, puisque... On s'occupe notamment des ERP. Alors, les ERP, pour des gens qui ne savent pas, c'est des établissements recevant du public. Alors, il y en a plein. Il y a plein de catégories. Il y a les salles de concert, etc. Il y a les cinémas, les théâtres. Mais il y a les écoles aussi. Il y a les musées. Il y a, voilà, les salles des fêtes, etc., etc. Eh bien, donc, le gouvernement vient de voter le fait que des hommes en armes, donc police nationale ou gendarmerie, uniquement peuvent, en dehors de leur service, conserver leurs armes et fréquenter ce genre d'établissement. Donc vous imaginez ce que ça peut donner quand ces établissements sont en banlieue parisienne, donc par moments dans des endroits un peu chauds. Nous, on l'a connu au cadre Omnibus à un moment où il y avait des frictions, effectivement, dès qu'un policier, quel qu'il soit, armé ou non, venait donc, dans notre lieu. Mais il y a aussi c'est des débits de boissons. Donc, ces hommes en armes, en dehors de leur service, ont normalement aussi le droit de consommer de l'alcool, mais armés. Donc, ça devient très, 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 très dangereux. Alors, on dit, ouais, mais au Bataclan. Donc, ça me fait penser à Charlton Heston, à la NRA aux États-Unis. Mais où il faudrait que tout le monde soit armé pour se défendre. C'est une connerie, une vaste connerie, parce que si des gens étaient armés au Bataclan à l'époque, il n'y aurait pas eu une centaine de morts, mais il y en aurait eu plusieurs centaines, voire voilà. Donc, bref, il y a des choses qui ne vont pas non plus à ce niveau-là. Cependant, puisqu'on est vachement positif quand même dans la vie, il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui réagissent. Il y a des lieux, vous le savez, et pas seulement l'Odéon à Paris, qui sont occupés, des scènes de musique actuelles, des théâtres, etc., etc. Et il se passe des choses. Donc pour ça, je vais passer la parole à ma chère camarade, collègue bambochienne, Cathy, et qui va relancer le débat là-dessus, sur l'avenir.
Sur l'avenir.
Que faire, aurait dit Lénine. Donc que faire, Cathy Arnaud ?
Alors moi, je ne sais pas que faire complètement. Mais depuis le 4 mars, on a vu que les intermittents du spectacle avaient commencé à lancer un mouvement d'occupation du théâtre de l'Odéon, qui s'est répandu dans toute la France. Donc ça, c'est déjà une grosse action, et beaucoup de lieux culturels, voire tous les lieux culturels, sont occupés aujourd'hui. Il y a eu aussi un autre mouvement de manifestation musicale qui a été lancé par le groupe HK, qui a été relayé par les acteurs locaux culturels, et où le public a vraiment répondu très présent. Donc on sent vraiment qu'il y a une ferveur, qu'il y a un besoin. Et je rebondis, c'est vraiment le côté aussi amateur là, qui commence à se soulever, du public qui manque, des musiciens ou des comédiens ou de tout autre artiste amateur qui a envie encore de faire des choses et qui montre à quel point c'est nécessaire. Et j'avais envie aujourd'hui d'avoir un peu votre regard, à vous, acteurs culturels, élus, artistes, sur ces mouvements-là. Et se demander si à l'échelle d'une ville, finalement, il n'y a pas quelque chose à faire, parce que c'est plus petit, pour essayer de relancer et de penser à l'avenir. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à penser ensemble, pour le coup, puisqu'on en parlait tout à l'heure, entre les artistes, entre les acteurs culturels, entre la ville, les techniciens, mais surtout les élus, à comment co-construire l'après, pour qu'on arrive à quelque chose de positif ? Parce qu'on sait que l'argent va revenir... sur la réouverture des lieux professionnels. Mais par contre, on sait très bien que pour tout ce qui est amateur, pour tout ce qui est émergence et tout ce qui est musique actuelle, qui est quand même le secteur pauvre en termes de subventions, pas en termes de recettes, ça va être très compliqué. Donc en fait, voilà, c'est la petite question, le petit débat que je vous lance.
Bon, alors, moi, je veux bien réagir, parce que, Cathy, tu as dit quelque chose qui est aussi, dans le fond, ce qui me fait tenir le coup dans les moments où on se dit, mais par quel bout on peut continuer à prendre ce sujet, on se heurte à des murs, c'est l'attente du public. Bon, bien sûr, moi, en tant qu'élu à la culture, je me préoccupe, je suis très préoccupée du sort de tous les acteurs culturels, des professionnels, parce que, bon, ben, tout de même, il faut bien vivre, et des amateurs, parce que quand on ne peut plus s'exprimer, quand on n'a plus personne en face de soi, bon, on peut toujours chanter chez soi, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas pouvoir s'exprimer, donner du bonheur aux autres et de la joie. Et bon, et moi, je suis très frappée quand même, ce qui me fait tenir, c'est l'attitude du public en général, enfin des habitants. Au mois de septembre, quand on a fait la rentrée culturelle, les personnes sont venues, il y avait plein de gens qui sont venus me dire, mais c'est vraiment bien d'avoir maintenu ça, cette rentrée, parce que même masqué, on respire mieux. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était une jolie phrase qu'on m'a dite. C'est une dame qui m'a dit ça, et je me dis, mais c'est vrai que ces moments de partage, bon là, on avait tous le masque, on était obligés, mais n'empêche qu'il se passait quelque chose entre les personnes. On ne dansait pas sur des personnes qui étaient sur la scène. Ben, on ne dansait pas aussi rapprochés les uns des autres qu'on le faisait d'habitude, mais ça marchait, ça fonctionnait encore. Et donc ça, je pense que c'est effectivement ce qui peut nous donner un espoir que quelque chose se passe. Tout à l'heure, j'évoquais tout ce qu'on essaye de faire avec les organisations au niveau national, parce que bien sûr, si on veut faire vraiment bouger des choses, c'est en se battant chaque jour au niveau national, qu'on finira peut-être par faire céder. Mais j'aime bien l'idée de faire quelque chose sur le plan local. Alors, s'il n'y avait pas eu le confinement, nous avions prévu de faire des états généraux de la culture, et dans lesquels on ne voulait pas le faire seulement avec les acteurs culturels, pas seulement avec les professionnels, mettre d'un côté les professionnels, d'un autre les amateurs, mais aussi avec ce qu'on appelle les usagers, comme on dit, et des non-usagers. Parce que je pense que c'est un moment, ce confinement, il nous fait tous réfléchir différemment. Il y a des personnes qui sombrent dans une dépression. Il y en a d'autres qui se trouvent contraintes de rester chez elles, mais cette contrainte-là, le fait de ne pas avoir les discussions qu'on a tous les jours avec ses collègues de travail, ou de moins voir ses amis, de moins voir sa famille, etc.
Le lien social.
Voilà, le lien social. Eh bien, quand il n'est pas là, on peut verser dans la dépression, mais on peut aussi réfléchir. Et moi, je crois que ta proposition de faire... de se retrouver à un grand nombre de voix différentes qui ont des points de vue différents et des attentes différentes. C'est exactement là-dessus qu'on peut compter pour essayer. Je veux dire, c'est évidemment pas à Colombes qu'on va changer les choses pour toute la France, mais commençons déjà là. Voilà, absolument. Alors, et moi, j'applaudis dès demain et encore plus à cette proposition, tout à fait.
Alors, justement, je voudrais pousser un petit peu le bouchon, si je puis me permettre. Parce que là, vous évoquez donc la possibilité de réunir des acteurs culturels amateurs, professionnels, des usagers, des non-usagers. Donc on est quand même sur des termes suffisamment généraux pour qu'on puisse y mettre un peu tout ce qu'on veut. Moi, j'ai une proposition à vous faire, là, tout de suite. C'est qu'on est tous des acteurs de la culture. Alors pourquoi pas réunir effectivement des professionnels, des amateurs, mais aussi éventuellement peut-être réfléchir à quelque chose d'un peu plus transversal, qui regrouperait l'éducation, la jeunesse, la citoyenneté, le sport, plutôt que de, à nouveau, repartir sur quelque chose qu'on faisait déjà très mal avant, c'est-à-dire réfléchir à la culture, parce qu'on sait très bien où ça mène. Ça mène à, au mieux, un statu quo, alors qu'on sait très bien que la situation avant le Covid, elle aurait déjà pu être meilleure.
Oui, tout à fait, mais je suis bien d'accord là-dessus. On est en train d'essayer de revivifier la démocratie locale. C'est un peu difficile avec la période. Mais il y a donc on a lancé des budgets participatifs là pour proposer à n'importe quel habitant d'avoir une idée tout seul ou en se regroupant avec ses voisins ou d'une association ou autre et faire des projets de qu'est-ce qu'ils aimeraient qui soit installé sur la ville. Il y a un million d'euros qui est consacré à ça. Les gens vont voter pour ce qui leur plaît. Mais derrière ça, il y a ce qu'on appelle les agora. Et c'était exactement ces choses transversales que vous dites, c'est-à-dire on n'a pas pu les faire en présentiel et on va commencer à les faire finalement en les démarrant avec ces modes auxquels tout le monde s'est habitué, Zoom et compagnie. C'est pas l'idéal, mais finalement, on s'est dit on va attendre et dans 3 mois, ça va être mieux. Puis au bout de 3 mois, ça n'est pas mieux, donc on va le lancer autrement. Et là, c'est autour de thèmes. Et en fait, finalement, vient vraiment qui veut. Pas seulement, on peut parler... Alors, on essaye de faire des projets qui, déjà, dépassent la culture. Par exemple, vous savez qu'à Colombes, il va y avoir les Jeux Olympiques en 2024. Oui. Et donc, on se dit, ben, les Jeux Olympiques, oui, ça intéresse les sportifs, mais est-ce qu'on ne peut pas faire que ça soit une grande fête pour tout le monde ? Et on a lancé l'Olympiade culturelle, c'est-à-dire donc, qui va commencer la prochaine rentrée, et sur laquelle ben, on a consulté, on a demandé les avis à des assos culturels, mais aussi à des assos de solidarité et aussi à des assos sportives. Et donc l'idée, c'est qu'il va se faire des choses la prochaine année scolaire. Il va y avoir des espèces de jumelages entre des associations sportives et des personnes de la culture. Et l'idée, c'est créer quelque chose ensemble. Bon. Après, on va passer à un deuxième niveau avec des artistes qui vont travailler avec les habitants et en se servant, par exemple, d'objets qui usagés du monde du sport. Et l'idée, c'est de monter en puissance jusqu'à arriver à ce que, en 2024, ça concerne absolument tout le monde. Donc, oui, moi, je relève le défi bien volontiers.
Alors, je voulais intervenir, je trouve ça super et je suis d'accord avec le côté transversalité, mais je voulais revenir un peu plus alors, sur la problématique de la culture par rapport au Covid, parce que, pour le coup, je pense sincèrement qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé et qui s'est mis en place pour tous les gens issus de la culture, pour les intermittents du spectacle, et que les projets pensés comme ça en transversalité, il ne faut pas qu'ils soient verticaux, il faut aussi qu'on puisse... à un moment donné, savoir où on en est, justement, sur le terrain culturel au niveau de Colombes, c'est-à-dire avec toutes les associations, les petites associations qui ont beaucoup de mal, avec tous les amateurs et avec tous ceux qui sont en voie de professionnalisation. Et ces états généraux de la culture ou ce diagnostic, il me semble important pour pouvoir après rebondir sur une espèce de... je sais pas moi, de plan de relance de la culture après Covid. C'est-à-dire que la transversalité, les Jeux Olympiques et tout ça, je trouve ça super. Mais de fait, je crois qu'il y a vraiment un truc très très important. Parce que tout à l'heure, tu disais quelque chose de très fort par rapport à la culture. La culture, c'est les musées, c'est le cinéma, c'est plein de choses. Mais c'est aussi un vecteur de lien social hyper important. Et sur une ville comme Colombes, où on a plusieurs sortes de populations, la culture, soit elle sépare, soit elle rassemble. Et c'est vrai que sur Colombes, ces derniers temps, elle a un peu séparé les gens. Et que c'est vrai que là, il y a quelque chose à faire de vraiment, vraiment important. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe de fort pour que ça démarre.
Mais tout à fait. Je pense que tu parles d'un plan de relance. Alors, au niveau des services, parce qu'on pourrait se dire, dans le fond, les élus à la culture et les services de la culture... Bah, depuis le confinement, ils font pas grand-chose, ils tournent les pouces, alors que peut-être on travaille encore plus qu'en temps habituel. Parce que les services, par exemple, tous les 15 jours, ils ont des petits points Zoom, là, avec une catégorie d'associations pour voir où ils en sont, quels sont leurs problèmes. On aide beaucoup les petites associations à obtenir des aides. À savoir, bon, la ville, elle n'a pas un budget, évidemment, malheureusement, qui soit formidable. Et surtout, on a aujourd'hui des contraintes réglementaires qui font que d'une année sur l'autre, le budget ne peut pas augmenter plus que de 1,2 ou 1,5, je ne sais plus. Donc, ça fait qu'évidemment, la part qui va revenir à la culture là-dedans, ben, ça peut peut-être être 1,5 de plus, mais ça ne va pas monter beaucoup plus. Et comme ça avait été, c'est un secteur qui a été très abîmé quant aux aides dans les dernières années, on ne peut pas arriver à remonter nos possibilités financières autant qu'on le voudrait parce que la réglementation nous l'interdit. Alors pour cela, on est en train de créer un fonds de dotation pour essayer de trouver aussi des mécènes les entreprises ont un intérêt à aider des projets dans des domaines parce qu'elles-mêmes, ça leur retire une partie des impôts qu'elles ont à payer. Donc, on peut y trouver, c'est une situation qui peut être gagnant-gagnant, comme on dit. Et donc, on est en train d'essayer de trouver des financements, mais aussi vraiment d'aider les assos en difficulté à trouver dans les lignes budgétaires de toutes sortes de... là, avec le plan de relance, comme tu dis, qui existe et qui a aussi un aspect financier, il y a plein de lignes sur lesquelles on peut arriver à trouver quelque chose. Donc, les agents de la ville, ils sont en train de... Ils regardent tous les jours ces choses-là pour aider. Alors, c'est vrai que ça... C'est pas pour aller vers l'avenir et voir comment on veut se développer, mais c'est pour éviter que les gens meurent. D'accord. Et donc, c'est vrai que là, on en est pile à ce moment-là aujourd'hui, mais je suis d'accord, il faut dépasser ça et aller vers quelque chose où l'ensemble des personnes qui sont dans cette ville, s'ils en ont envie, eh bien, il faut qu'ils puissent se reconnaître dans les choses qu'on propose. Tout à fait.
Alors, je voudrais juste rebondir là sur ce que vous venez de dire, parce que d'abord, pour rebondir, il faut bondir. Et j'ai envie de dire que là, vous me faites bondir. Alors, pas vous personnellement, mais vos propos. Parce que, en fait, j'ai l'impression que on est encore en train de ressortir des recettes qui existent depuis 40 ans. C'est-à-dire que, toujours quand on manque d'argent pour la culture, on va se diriger vers des mécènes. Or, les mécènes, vous disiez tout à l'heure, il faut qu'ils aient un intérêt, c'est-à-dire de, clairement, eux, payer moins d'impôts. Donc, vous me dites que là, on fait du gagnant-gagnant. Et je vous réponds non, on fait du gagnant-perdant. Les gagnants étant les mécènes qui, eux, payent moins d'impôts, les perdants étant la culture, qui, en échange d'avoir de l'argent, à un moment donné, vont devoir faire certains compromis. Et justement, c'est un modèle dont on ne veut plus. Il faut en sortir. Or, vous disiez aussi qu'il y a des réglementations que nous connaissons hein, qui, effectivement, vous imposent de ne pas augmenter certains budgets. Par contre, vous savez comme moi que les budgets entre eux sont poreux. Toujours, si on arrive à trouver des liens entre eux, les budgets sont un petit peu poreux. Donc, suivez mon regard, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vrai que depuis quelques, on va dire depuis une grosse trentaine d'années, hein, depuis que Jacques Lang est décédé, politiquement tout au moins, je plaisante. il est toujours quand même très présent, et heureusement qu'il a été là, quand même. Mais bon, on est quand même dans un système où on n'arrive pas à se réinventer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la culture, c'est pas tellement des subventions qu'elle a besoin. La culture, ce dont elle a besoin, c'est qu'on lui donne une bonne fois pour toutes les moyens de pouvoir créer elle-même ses moyens de subsister. Mmh. Et c'est ça, en fait, qui, moi, à mon sens, est une très grave erreur aujourd'hui, qui est une erreur qui est faite depuis 40 ans. Et si on ne profite pas de la possibilité qui nous est donnée, là, de relancer la balle au bon et de dire on va peut-être changer ce système qui est complètement éculé depuis, mais longtemps, parce que les problèmes de la culture, vous en êtes consciente, ne datent pas de la période Covid. Certes, elle les a aggravés, mais elle ne date pas de cette période-là. Donc, moi, ce que j'ai du mal à comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi on aurait un budget qui serait uniquement culture, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, jumeler ce que je disais tout à l'heure, éducation populaire, jeunesse, parce que là, si on met tout ça ensemble, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a possibilité de co-construire des projets, et du coup... les histoires de fonds et de lignes de subventions sont dépassées.
Alors, c'est pas... quand je dis on ne peut pas augmenter les budgets, c'est déjà ce qui se fait de faire des choses les uns avec les autres. Il y a énormément d'actions de la culture qui sont prises sur des budgets éducation. Il y a beaucoup d'actions de la culture avec ce qu'on est en train de mettre en place qui émargent sur le budget du sport. Il y a des choses qui se font avec la jeunesse. On n'est pas, ce n'est pas fermé. Et par ailleurs, quand vous dites on ne veut plus de cette histoire de mécénat et autres, c'est pourquoi on crée un fonds de dotation. Parce qu'un fonds de dotation, ce n'est pas du tout comme les mécénats habituels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entreprise qui viendrait dire « Ah ben moi, je trouve que c'est bien ce que font les Zulus, par exemple. Donc, je vais aider les Zulus pour cette chose. » Mais je voudrais qu'en échange, je ne sais pas moi, ils nous fassent un concert dans notre entreprise, ce qui par ailleurs pourrait être une chose très bien, d'ouvrir l'esprit des salariés à ce type de musique.
Ça dépend de l'entreprise.
Oui, ben, ça dépend. Je pense qu'il y a des gens, sympas, il y a des gens intéressants dans chaque entreprise. Je pense que les gens ne choisissent pas toujours l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Seulement pour ce qu'elle y fait. Mais le fonds de dotation, c'est tout à fait différent. C'est un organe qui est indépendant, qui se crée, dans lequel il y a quelques élus, qui sont représentées. Il y a des associatives, des personnalités de la ville et autres. Et ils recherchent des fonds. Et pas pour des choses précises, c'est des domaines. C'est par exemple, ce sera la culture et le sport, ou la culture et l'éducation. Bon. Et cet argent ensuite, eh ben, c'est effectivement, il y aura des projets divers et variés qui peuvent être financés. Et il n'y a pas de contrepartie, contrairement à ce que je dis. C'est pour ça qu'on a choisi ce système de fonds de dotation. Alors après, moi, je suis tout à fait, j'entends bien que... il faut trouver des nouvelles recettes. Alors celle-là, ça peut être un bout d'une nouvelle recette financière. Bon, parce que quand même, c'est aussi le nerf de la guerre. Hein. Je ne sais pas si on peut parler de guerre, c'est pas ça, parce que moi, j'aime pas bien employer ce mot-là, mais n'empêche qu'il y a des... Voilà, le nerf de la guerre, ça va. Après, il y a une autre chose dont les associations ont besoin, et je crois que là, les Julus, c'est un endroit dans lequel je peux le dire en étant sûr que ça a de l'écho, c'est d'avoir un local, c'est d'avoir des moyens, c'est voilà. Mais quand vous arrivez le temps de... Bien sûr, je comprends que ça, tout le monde soit impatient. Et bien, rien que le temps de faire le tour de tous les locaux qui existent, de voir ceux auxquels qui ont été attribués. Est-ce que les gens auxquels on les a attribués, ils en font une utilisation tout le temps, pas tout le temps, de va. Vous ne pouvez pas imaginer le travail que c'est. Ma collègue qui s'occupe de la vie associative, elle court, chaque semaine, elle visite un certain nombre d'endroits, puis ensuite... On a des personnes, des services qui vont voir quels sont les travaux qu'il faudrait faire pour les remettre en état. Parce que malheureusement, nous succédons à une mandature dans laquelle on a beaucoup construit du neuf, mais où on n'a rien entretenu. Et on arrive avec des budgets qui ne sont pas... Ben voilà, les budgets de travaux, c'est de l'argent qu'il faut, mais c'est aussi du personnel pour le faire. Et comme le personnel, il n'est pas démultipliable et qu'il ne va pas travailler 24 heures sur 24... Eh bien, ce personnel, il peut faire un certain nombre de choses en matière de travaux, mais voilà, il ne peut pas en faire plus. Et donc, on doit prioriser des choses. Et je comprends tout à fait l'irritation de certains, mais en même temps, je dois dire, de l'autre côté, on fait pas, moi, j'ai pas la baguette magique pour dire, ben, du jour au lendemain, on crée quelque chose. Ne croyez pas qu'on va vous oublier sur cette histoire de local. Je vous le dis dans l'émission de radio.
Non, mais nous, c'est bon. Voilà. On est à la mairie vendredi. Moi, j'ai loué le camion. On attend l'adresse et on a dit qu'on avait les clés à disposition bientôt. Là. C'est comme tous les projets de la MJC. Non, ça a été... C'est bon, t'es pas au courant.
Ah bon. Mais je sais que c'était sur les rails, mais qu'il y avait la question des travaux. Donc, okay. Voilà. Donc, et même que je sais que ça sera quelque chose de provisoire. Qui va pouvoir après être quelque chose de permanent dans un plus joli endroit, donc voilà. Mais c'est pas parce qu'on vient nous engueuler qu'on fait rien derrière, hein.
Non,
voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est la quadrature du cercle par moment, parce que on a des conditions dans lesquelles on se trouve et tout le monde réclame. Mes collègues du sport, mes collègues qui s'occupent de l'éducation, mes collègues qui s'occupent de la jeunesse, tout le monde a des besoins criants. Et donc, il faut arriver à faire des arbitrages. Alors, on a la chance quand même que tout le monde dans cette équipe considère que la culture, ce n'est pas un non-essentiel. Donc, je ne désespère pas qu'on arrive à faire des choses, mais ça ne peut pas se faire comme ça tout en une année, malheureusement. Voilà. Mais je suis bien d'accord avec les remarques que vous formulez.
On travaille rapproché total.
Pas tout de suite en tout cas.
Pas tout de suite.
Pas tout de suite. On va commencer par Bolloré puis on verra.
Voilà. Ouais.
On ira faire un petit concert sur Canal Plus. On va faire un petit concert sur Canal Plus. Voilà. On va repartir peut-être sur une idée qui était évoquée tout à l'heure, que tu as déjà évoquée toi notamment Fred dans ta chronique du Somnambule. C'est la fameuse convergence des luttes. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que finalement ce qui arrive à la culture, c'est pas finalement le reflet d'une transformation profonde de notre société qui est aujourd'hui finalement un petit peu mise à mal, et quand je dis un petit peu, c'est un euphémisme, parce que là, depuis un an, il y a des choses qui apparaissent encore plus au grand jour, des inégalités qui se creusent, des libertés qui petit à petit disparaissent. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Est-ce qu'on défend d'abord notre chapelle pour repartir et avoir un moyen de libre expression? Ou est-ce qu'effectivement, à un moment donné, il va falloir que tout ça s'agglomère et qu'on pense peut-être au-delà de la culture à repenser notre société de demain. J'aimerais bien avoir votre avis, Edgar, Elliot. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que le rôle de l'artiste, il peut nous amener un petit peu plus loin, justement?
Moi, je pense, comme ça a été dit avant, que le côté local est indispensable pour construire quoi que ce soit et peser d'une quelconque manière sur les politiques globales. Après, c'est sûr que tant qu'on a des politiques globales qui se foutent un petit peu de ce milieu-là, j'ai du mal à voir. Moi, j'ai beaucoup d'amis musiciens intermittents qui se détournent justement de toutes ces institutions et qui sont plus sur une pratique de bande de potes, de potes de potes, de connaissances de conservatoires, parce que c'est vrai que quand tu commences à traîner dans les conservatoires, tu connais vite plein de monde. Donc moi, je pense, j'ai plutôt tendance à penser que le local est la base, mais c'est là où la convergence des luttes est indispensable, c'est que pour peser, pour que tous ces acteurs qui ont les mêmes intérêts de pouvoir retravailler, de pouvoir refaire société, quoi, il y a besoin de faire pression sur un gouvernement, quoi. J'ai du mal à voir comment des petites initiatives peuvent... Enfin, elles peuvent toujours donner exemple, mais peuvent peser dans la balance. J'ai du mal, je sais pas trop.
En tout cas, c'est multiplié. Alors, je te
confirme. Oui, dans c'est ce multiplié, c'est sûr.
Dans ce que tu viens de dire, en tout cas, je te confirme, aux Ulu, on est d'accord. Le local, c'est la base.
On parlait de convergence des luttes et un autre niveau aussi, du local, du bio, de la transition écologique et énergétique. Il y a dans tous les domaines, de la collapsologie, dans tous les domaines, les gens effectivement essayent de repartir de ce côté citoyen, de ce côté petit. Et alors nous, on y croit toujours. On s'est beaucoup immiscé dans les questions parce que ça en fait partie. On peut pas être artiste. Enfin, à mon niveau, la musique c'est bien parce que c'est à la fois un moyen et un but. C'est un but ultime parce que tu vas créer une œuvre gigantesque. Tout le monde y croit, bien entendu. Et de l'autre côté, c'est un moyen. C'est un moyen effectivement pour éduquer les gens, pour s'ouvrir, pour s'éduquer soi-même et pour faire avancer les choses aussi. Et quand je dis se rencontrer, créer du lien social et compagnie. Et ensemble, essayer d'avancer justement, essayer avec ces petites choses. On dit bio, local, citoyenneté, etc. etc. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer parce que c'est avec ça qu'on va créer, et je sais que personne n'aime le terme, mais parce qu'il est mal compris. Un rapport de force favorable, et c'est comme ça que les musiques actuelles, il y a 30 ans, 35 ans, se sont créées. C'est-à-dire que c'était des petits garçons, des petites filles dans leur coin, mais qui parlaient un peu plus fort que les autres et qui trouvaient que le système était tout pourri, qu'on pouvait jouer nulle part, qu'il n'y avait pas de salle, rien du tout. Qu'on commençait à prendre d'assaut des petits bars de quartier, alors moi, nous, c'était Annie Marante, puis un vieux rat tombé en désuétude qui avait accueilli Jimi Hendrix. N'empêche que ça a duré des années et des années. Et puis que le système, après, c'est les gens de pouvoir, les collectivités territoriales, le département, jusqu'à l'État, c'est-à-dire la DRAC, qui sont venus nous voir au bout d'un moment. Ouais. Parce que, à force de faire un petit peu de bruit, et puis un petit peu de bruit, puis un petit peu de bruit, eh ben, on fait évoluer les choses. Ouais. Et puis donc, les labels, alors, pour le meilleur et pour le pire, c'est comme ça que les labels SMAC se sont créés, c'est comme ça que des postes et des formations, surtout à l'université, des Master 2 se sont créés sur la gestion des équipements culturels. Alors, pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'aujourd'hui, on crée des carrières, alors qu'on oublie l'essentiel. Donc c'est ça qui va plus du tout, c'est que les gens ont oublié, notamment les techniciens, mais je parle pas seulement à Colombe, hein. Rassure-toi, ont oublié leur côté créatif et leur côté artiste, même s'ils n'en sont pas. Mais on peut être artiste dans une création de projets, qu'ils soient éducatifs, culturels ou autres. Donc c'est ce qu'on oublie un petit peu, et c'est ce que peut-être cette période... peut-être cette période va nous ouvrir les yeux là-dessus. C'est-à-dire que plutôt que d'accueillir un one shot, un Springsteen ou n'importe qui avec un mur d'écran, au niveau du Boeing comme au niveau du mur d'écran, LCD, consommer jusqu'à un village de 5 ou 6 000 habitants peut consommer dans l'année. Au niveau énergétique, on va peut-être travailler sur les acteurs locaux, sur le développement des artistes, sur l'éducation artistique et culturelle. Voilà. Et la convergence des luttes, c'est pareil. On parlait tout à l'heure, mais on en parle souvent mal. Je vous rappelle que Courbet, a dessiné l'origine du monde pendant la Commune. Et je voudrais y revenir, parce que la culture, la musique, mène aussi à tous les combats d'égalité femmes-hommes, de défense justement culturelle, d'éducation artistique et culturelle, mais aussi du respect de soi-même et du respect des autres au niveau local, au niveau du bien manger, au niveau du bien respecter sa planète. Voilà, on a été précurseurs pendant de longues années. Alors je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, parce qu'il y a des techniciens, parce qu'il y a des études, parce que là, tout le monde a oublié sa passion, on se contenterait de notre petit jardin secret à nous, de grand artiste, grand créateur devant l'éternel. Non, je pense qu'effectivement, il ne faut pas cracher sur des choses comme j'allais dire Colombe debout, mais oui, on l'a fait aussi à Colombe, comme Colombe debout, ou comme les Gilets jaunes, ou autres qui sont des choses qu'il faut accueillir aussi, les Agora, t'en parlais, nous, on va en faire une, t'es pas au courant, on va en faire une devant la MJC, tiens, donnant, à partir du mois de mai, là, tout le monde va pouvoir venir s'exprimer, on a besoin juste d'une prise de courant et de Barnum que la mairie va nous concéder gentiment, voilà, juste après avoir reçu les clés de notre local pour qu'on puisse aller déménager là-bas. Et voilà, et donc permettre à tout le monde de s'exprimer, mais ça c'est possible parce qu'aujourd'hui ce qui est complètement hallucinant, c'est que si on fait une demande à la préfecture pour faire une manifestation, c'est-à-dire qu'elle soit musicale, on a le droit, enfin elle est rarement refusée, peut-être pas à Colomb parce que partout en France c'est comme ça que ça se passe, de Narbonne à... oui, mais il y a des préfets qui sont aussi pire que le nôtre, hein, donc oui. En France, je te dis, en Bretagne il est pas terrible, enfin il y en a partout, mais bon, à partir du moment où c'est une manif, une manifestation revendicative, et ben on peut y mettre de la danse, on peut y mettre de la culture, de la prise de parole, etc. etc. Et c'est rarement retoqué, c'est ça que j'allais dire. Bon, bref, pour l'instant, hein, sur ce que j'ai vu moi, autour de moi, et c'est comme ça que l'occupation des lieux et les agora devant les lieux se déroulent aux quatre coins de la France, que ce soit dans les SMAC ou dans les théâtres. Donc il ne faut pas lâcher, continuer la lutte, c'est là où je veux venir, et que cette lutte elle s'étende effectivement parce que ça fait. On parle de quoi? Alors, on parle de concentration dans le monde de la musique, on parle de dépenses énergétiques, on parle juste d'une connerie qui est l'évanescence du capitalisme qui est en train de consumer un peu toutes les choses, pas seulement la culture, mais l'éducation, qu'est-ce qui se passe là dans les hôpitaux, les services publics, pourquoi c'est une histoire de profitabilité, de rentabilité, d'efficience, loin de l'efficacité, mais plutôt d'efficience. Donc voilà, les normes économiques ont tellement, et budgétaires surtout, ont tellement été intégrées par tout le monde et par nous-mêmes, qu'on en finit par se dire, mais c'est comme ça, on ne peut rien faire. Eh bien si, on peut faire. Voilà.
On peut faire différemment, on peut faire bio, on peut faire local. Et justement, ils sont bio, ils sont locaux, ils sont beaux aussi.
Ils sont locaux.
Ils s'appellent Olina. Ils sont avec nous ce soir pour l'émission et on va écouter le morceau le plus récent que vous avez enregistré et que vous avez sorti.
Dernier
on va commencer
morceau,
par le premier, on va finir par le dernier, hein. C'est logique.
Qui s'appelle Grand-mère. Donc Grand-mère, c'est pareil, hein, c'est bio, c'est local. c'est mamie qui cultive, c'est Paulette, c'est toutes celles qu'on connaît. Voilà, c'est une belle histoire. Et j'espère qu'en écoutant cette chanson, elle pourra vous inviter à se faire connaître et peut-être à devenir une grande amie à vous.
Dans sa cuisine quand elle se met à tartiner. Hier j'ai chopé une angine, j'ai trop de mal à me lever. Grand-mère a des remèdes utiles quand elle se met à y penser. Mamie parcourt les saveurs que la dame peut lui apporter. Elle a découvert le bonheur la première fois qu'elle l'a goûté. Mamie est une femme toute en fleurs depuis qu'elle se met à cultiver. cultivée. Elle a remplacé les dealers et s'est mariée à un condé. Bicrave à toute heure, tout le monde le sait. Dans son quartier, mamie a pris de Rottweiler. Elle se sent mieux accompagnée. En réalité, c'est un leurre. Mamie sait faire du karaté. Mamie s'installe à la campagne. Elle a acheté une caravane, a invité tous ses amis, savouré ses nombreux produits. Mamie ne vend pas aux enfants, mais tient un stand à la kermesse. Elle sait vendre du rêve aux parents, seulement on ne prend que les espèces. Mamie a oublié la recette. Après des années d'exercice, elle n'a plus vraiment toute sa tête et veut se lancer dans la saucisse. Mamie, ce n'est pas le même climat que cultiver de la ganja. Tu toucheras que la foire au vin, alors que t'es la reine de Saint-Ouen.
Mamie, t'as sûr quand elle est pure, quand elle te plonge dans le futur, quand tu l'as fumé, que ça dure, c'est de la bonne, tu nous rassures. Mamie, t'as sûr quand elle est pure, quand elle te plonge dans le futur, quand tu l'as fumé, que ça dure, tu en as même dans les chaussures. Mamie, t'as sûr quand elle est pure, quand elle te plonge dans le futur, quand tu l'as fumé, que ça dure, t'en fais des comme ça, t'as sûr.
C'était Olila à l'instant avec le morceau Grand-mère, qui est donc le dernier morceau qui a été sorti par le groupe Olila. On vous remercie beaucoup, les gars. On a eu beaucoup de plaisir à
vous
recevoir et à pouvoir écouter vos créations. Donc, il paraît que vous avez un concert à 7h15 dans la ligne 11, mais par contre, elle est fermée entre Arts et Métiers. Donc, n'y allez pas, ça sert à rien.
Non, mais vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Olila Musique, sur YouTube, Spotify, partout.
Parfait, voilà. Ils sont partout.
Puis très vite sur scène à Colombes.
Ah, on espère.
Très vite.
Et partout dans le monde.
Sur scène à Colombes. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Chantal Patrini-Ruiz, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à ce débat qui était, j'ai trouvé, très très constructif, très intéressant. Pas de langue de bois, ça fait du bien. C'est bien agréable. Donc, merci beaucoup à vous.
Eh bien, merci à vous de m'avoir invité. Oui, je pense que ça n'a pas d'utilité que je viens de faire un discours convenu ici.
C'est pas
on est là pour échanger. Donc, voilà.
D'autres dîners ne laisseraient pas passer.
Et puis, beaucoup de succès à votre radio.
On va tout faire pour. Et puis, merci à la joyeuse bande de bambocheurs et bamboucheuses qui nous accompagnent.
Merci à toi.
Merci, Mathieu. Merci, Fred. Merci, Julien. Et nous, on se retrouve très vite sur la Zulu Radio. Super. À très vite, les gens.
Zulu Radio.